France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, 2 millions de personnes contrôlées depuis le début du confinement il y a une semaine. Une activité qui mobilise énormément les forces de l'ordre et qui oblige la police à se réorganiser. Bonjour Jérôme Bonnet.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur central de la police judiciaire. Alors la PJ ne s'occupe pas de ces contrôles dans la rue, mais cette pandémie a tout de même un impact sur votre activité. Comment vous êtes-vous adapté ?
Alors il a fallu d'abord qu'on réponde à un impératif, c'est que la criminalité organisée continue pendant cette période, même si elle s'adapte évidemment, on pourra peut-être y revenir. Et il s'agit également pour nous de préserver nos fonctions vitales, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on prenne le risque d'avoir des services qui tombent, si j'ose dire, pour des raisons de propagation de l'épidémie chez nous. Donc il a fallu qu'on organise des systèmes, notamment des systèmes de rotation entre nos équipes, pour que nous ayons des équipes qui soient étanches entre elles, pour ne pas, le cas échéant, se contaminer. Et ensuite, le troisième point central pour nous, c'est de venir assister nos collègues de sécurité publique, des commissariats qui sont en première ligne pour faire respecter les mesures de confinement et prendre à notre charge un certain nombre de contentieux qui sont plutôt de leur ressort, ou leur prêter un certain nombre de nos matériels, notamment de matériel de surveillance.
Ça veut dire que la PJ récupère quel genre d'affaires, par exemple, qu'elle ne traite pas habituellement ?
Nous récupérons aujourd'hui, on va dire, des petits vols à main armée, des agressions, des affaires de violence, des décès suspects pour lesquels nous allons donc aux autopsies pour vérifier s'il y a un motif criminel, des vols, voilà. C'est même si l'activité, nous observons plutôt quand même une baisse d'activité pendant cette période.
Et ces affaires viennent s'ajouter aux dossiers habituels que vous traitez. Vous arrivez à tout gérer ou il y a certaines affaires que vous mettez de côté en ce moment ?
Alors, il y a de toute façon des affaires sans que nous les mettions de côté, puisque nous sommes évidemment prêts à bondir sur toute affaire grave, évidemment. Mais comme la garde des Sceaux l'a indiqué, les activités non urgentes sont un petit peu mises en sommeil dans le déroulé des affaires judiciaires. Donc forcément, nous avons un ralentissement de notre activité naturelle.
C'est quoi, par exemple ? C'est les dossiers au long cours ? Là, il n'y a pas d'urgence, par exemple ?
Exactement, pour lesquels, par exemple, nous n'allons pas faire d'audition, pour lesquels, je vous donne un exemple, les services auprès desquels nous sollicitons des renseignements ou des documents dans les enquêtes financières, pour un certain nombre d'entre eux, sont fermés, par exemple.
Vous parlez d'audition, vous pouvez encore interroger les gens et même les faire venir dans vos locaux ?
Oui, bien sûr, nous continuons. Nous avons, dans des locaux qui n'y seraient pas, qui ne seraient pas adaptés, nous avons organisé des locaux d'audition dédiés à cela, où effectivement nous poursuivons nos auditions, nous poursuivons des gardes à vue, lorsque justement il y a cette urgence à gérer.
Et la surveillance de terrain, est-ce que c'est encore possible ? Ça, je pense notamment aux affaires de stupéfiants, où c'est très important.
Alors, nous avons d'abord des surveillances techniques qui continuent, les surveillances de terrain.
C'est ça, des surveillances techniques ?
Exactement, les écoutes et autres techniques que nous mettons en place. Mais également, alors évidemment, sur la voie publique aujourd'hui, que ce soit pour nous ou pour les délinquants, la voie publique est un lieu où on ne peut plus passer inaperçu. Donc, puisque la désertification de nos rues fait que à la fois les délinquants et à la fois les policiers ne peuvent pas se planquer, comme on dit.
Vous l'avez évoqué d'un mot au début de cet entretien. La France est à l'arrêt, mais pas la criminalité. Les délinquants ne sont pas confinés. Il y en a encore plus qu'avant ou pas ?
Non, pas plus qu'avant. On a, vous savez, la criminalité organisée, c'est une économie de marché sans règles, qui donc est à la recherche sans arrêt de profits et de nouveaux marchés. Donc elle est gênée, manifestement, par la situation, mais elle a également besoin de liquidité, donc elle doit s'adapter. C'est là que nous devons être extrêmement vigilants, et donc on a vu fleurir très très vite au début de cette crise ces effets d'opportunité, ces effets d'aubaine que le coronavirus offrait.
Par
donc
exemple,
des arnaques, beaucoup d'arnaques sur internet, des arnaques auprès des particuliers, par exemple, on a vu tout de suite fleurir des sites qui proposaient les fameuses attestations pour sortir de chez soi. Ces sites quasiment ont disparu une fois que les citoyens ont trouvé le moyen de se procurer ces attestations.
Vous voyez, des trafics de masques aussi ou de faux remèdes, ça existe ça ?
Évidemment, on a des trafics de masques, de gel hydroalcoolique, et on a également des escrocs beaucoup plus pointus qui, eux, ciblent les professionnels de santé en leur faisant miroiter des commandes un petit peu miraculeuses de produits et qui, évidemment, les arnaquent.
Et on a vu aussi des personnels de santé se faire braquer leur voiture ou leur domicile pour voler des masques. Ça se fait aussi de plus en plus.
Exactement, et il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur notamment tous ces commerces qui aujourd'hui sont fermés et sur ces commerces aussi qui sont ouverts, puisqu'évidemment ces commerces qui sont ouverts et notamment les pharmacies sont des cibles.
Les cambriolages, il y en a plus ou il y en a moins? Tout le monde est chez soi en ce moment.
On n'a pas encore le recul nécessaire, mais je crois pas me tromper en vous disant que les cambriolages de domicile risquent d'être fortement en baisse parce que les domiciles sont occupés. Néanmoins, il faut être très vigilant sur les domiciles qui ont été éventuellement quittés. On l'a notamment vu en région parisienne. Mmh. Et surtout être très vigilant sur tous ces commerces qui aujourd'hui sont fermés, ces entrepôts ou ces zones commerciales ou industrielles sur lesquelles, effectivement, il faut que notre vigilance soit totale.
Et à propos de la grande criminalité, donc on a évoqué rapidement le trafic de drogue, là ça se poursuit, ils arrivent quand même à poursuivre leur trafic malgré les mesures de confinement.
Alors, les zones de production globalement ne sont pas encore touchées, et puis en plus on a un effet retard. Vous imaginez bien, c'est-à-dire que les produits stupéfiants qui arrivent aujourd'hui sur notre territoire ont été fabriqués il y a déjà plusieurs jours, semaines. Donc ils arrivent toujours. On a vu des phénomènes d'approvisionnement au début du confinement, c'est-à-dire que des consommateurs sont allés s'approvisionner un petit peu plus que d'habitude, comme au supermarché, hein, comme pour les pâtes par exemple. Mais néanmoins, on sent qu'on a une vraie gêne des réseaux de revente de stupéfiants qui essayent de s'adapter en étant peut-être moins présents sur la voie publique et en étant un petit peu plus présents sur le web.
Et tout cela alors que vous avez, vous aussi, des policiers qui se retrouvent avec des enfants à la maison et avec des contraintes de garde. Il y a peut-être aussi des malades dans votre équipe. Vous fonctionnez d'ailleurs avec combien de personnes par rapport aux effectifs en temps normal ?
Alors nous fonctionnons avec une moyenne de 75 à 80% de potentiel disponible. Quand je dis potentiel disponible, c'est que nous avons à la fois des gens qui sont au bureau et des gens qui sont chez eux et qui fonctionnent en alternance. Et vous imaginez bien, par exemple, qu'il faut que nous maintenions une véritable étanchéité, une véritable disponibilité dans des matières, par exemple, comme la lutte contre le terrorisme, parce qu'il faut que nous soyons évidemment disponibles face à toute échéance.
Et vous avez pris des mesures de précaution pour vos équipes, avec des masques peut-être notamment, ou des rotations pour que les gens ne se croisent pas trop?
Alors, les rotations, oui. Les masques, non, sauf s'il est nécessaire d'en avoir face à des situations dans lesquelles on pourrait avoir une suspicion de présence d'individus infectés. Mais de rotation, oui. De désinfection des locaux, on a quand même des malades chez nous. Donc, lorsque l'on concentre plusieurs cas, on procède à des désinfections de locaux, de véhicules, pour essayer justement de limiter la propagation. On est un peu une institution barrière, nous aussi. Et puis on est totalement aux côtés de nos camarades soignants. Enfin voilà, je voulais le dire parce que quand on les voit tomber, comme on l'a vu ces dernières heures, ça nous parle à nous.
Et est-ce que le droit de retrait est possible dans la police? C'est autorisé?
Non, juridiquement, je crois que ça ne l'est pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est pour ça que nous prenons un maximum de mesures. C'est pour ça que nous communiquons énormément auprès de nos personnels sur les gestes, sur les contaminations possibles. Et nous sommes extrêmement vigilants vis-à-vis de nos personnels.
Jérôme Bonnet, directeur central de la police judiciaire. Merci beaucoup. Vous étiez l'invité du 5-7.